Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Gwendoline Troiano, Barthélémy Gaillard, Emma Liechtenstein, Lucas Lazo et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Lecuivre. Et la technique ce matin, c'est Noé Chaban. C'est le deuxième volet de notre série consacrée à l'Inde, à l'orée des élections générales qui s'ouvrent ce vendredi 19 avril. Nous évoquions hier les enjeux de l'élection avec la toute-puissance du BJP du Premier ministre de Narendra Modi, malgré les résistances qui s'organisent. Nous parlerons demain de l'agriculture, un modèle en crise. Aujourd'hui, entre promotion du rêve indien et paupérisation des basses castes, à qui profite la croissance indienne.
C'est un grand jour pour l'économie du pays. L'Inde est devenue la cinquième puissance économique mondiale.
Après 75 ans d'indépendance, l'attitude et le regard du monde sur l'Inde ont changé.
Ce sont deux des échangeurs autoroutiers du projet de la nouvelle voie rapide de Bombay. Cette route était indispensable. Nous sommes toujours en train de rattraper le temps perdu en termes d'infrastructures dont la ville manque cruellement. D'une certaine manière, nous cherchons à égaler les capitales occidentales, ou encore Hong Kong ou Singapour.
De plus en plus d'immeubles de luxe seront construits dans un avenir proche. Ils vont remplacer les bâtiments plus modestes, les riches deviennent plus riches, et les pauvres, je ne sais pas comment vous le dire, mais oui. Il y a une sacrée disparité.
Une sacrée disparité qu'on peut résumer en une image. D'un côté, en plein cœur de Bombay, la tour Antilia, résidence privée du milliardaire Mukesh Ambani, 37 000 m² au sol, soit la superficie du château de Versailles, mais ici, ramassée sur 27 étages, classée résidence la plus chère au monde par le magazine Forbes. De l'autre et dans la même ville, le bidonville de Dharavi et ses armées de déracinés, ses dizaines de milliers de maisons traversées de courants d'air, ses toits de tôle qui transforment très vite les cabanes en fournaise, ces centaines de personnes qui se partagent un seul point d'eau, bidonville que ce même milliardaire, Mukesh Ambani, veut d'ailleurs transformer en centre d'affaires. C'est dans cette Inde-là, cinquième puissance économique mondiale, où 1% des plus riches concentrent 40% des richesses, que Narendra Modi promet depuis 10 ans de réaliser le rêve indien, les rêves des jeunes indiens, indépendamment de leurs origines sociales et géographiques. La croissance indienne est celle qui croît le plus rapidement au monde et il s'agit de faire en sorte que tout le monde en profite, le 1 400 000 000 d'habitants, dont les deux tiers ont moins de 35 ans. Or, le capitalisme de connivence en Inde favorise toujours les mêmes entreprises, des mêmes hommes d'affaires proches du pouvoir, et les secteurs qui génèrent le plus de bénéfices aujourd'hui ne sont pas ceux qui emploient le plus. Alors comment les fruits de la croissance indienne pourraient-ils être mieux répartis? Comment l'économie peut-elle offrir un emploi aux quelques 10 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail? Le rêve indien peut-il être sauvé de la grande désillusion? Nous en parlons ce matin avec deux invités. Bonjour Catherine Brosse.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure d'économie à l'Université de Tours, chercheuse au laboratoire d'économie d'Orléans. Vous êtes spécialiste de l'économie indienne. Nous sommes également en studio avec Yves-Marie Rochaudoncar. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en géographie de développement à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci à tous les deux d'être ici pour comprendre d'abord qui profite aujourd'hui de la croissance indienne. Il faut commencer par définir ce qu'est cette croissance indienne et quel secteur la porte. Catherine Brosse, quand le gouvernement indien annonce il y a un mois une croissance de près de 8,5% pour le dernier trimestre 2023, donc une croissance revue à la hausse par rapport aux prévisions, comment est-ce qu'il faut lire ce chiffre dans le détail ?
Alors, il y a un point qui est important, c'est que ce chiffre a été revu à la hausse, mais ce chiffre bénéficie en fait d'un fort dynamisme du secteur de la construction, porté par un plan de rénovation ou de construction des infrastructures, et donc porté par des dépenses publiques en fait. Donc les dépenses publiques en Inde ont un fort pouvoir d'entraînement, mais fondamentalement le dynamisme supérieur à ce qui était attendu est lié à la construction. En dehors de cette couche, en fait, on peut regarder les secteurs qui contribuent le plus à la croissance. Et c'est des secteurs qui sont fondamentalement très productifs, des services essentiellement, qui sont très productifs et donc qui sont assez peu pourvoyeurs d'emplois. Fondamentalement, le problème principal de l'Inde, comme vous l'avez évoqué, c'est qu'il faut trouver de l'emploi en grande quantité. Or, la croissance indienne produit assez peu d'emplois parce que elle achoppe beaucoup sur le développement du secteur manufacturier qui, lui, est extrêmement contributeur en emploi.
Donc ça, c'est une caractéristique de l'économie indienne, de la croissance indienne, c'est qu'elle crée peu d'emplois.
Oui, absolument. Mmh. Alors, avec des variations, mais jusqu'à très récemment, les chiffres étaient assez faibles. On parle d'élasticité en emploi de la croissance qui est relativement faible, en fait.
Yves-Marie Rochaudankar, je le dis mieux cette fois-ci, quels sont aujourd'hui les secteurs qui sont pourvoyeurs d'emplois en Inde et qui sont aussi en croissance? Parce qu'en effet, cette croissance, elle est portée à hauteur d'un tiers par la finance qui crée peu d'emplois, mais il y a d'autres secteurs qui sont plutôt aujourd'hui performants, d'après les chiffres en tout cas du gouvernement indien, que ce soit le BTP, le secteur manufacturier, le secteur des mines. Comment aujourd'hui on peut regarder un peu dans le détail les secteurs où des Indiens, des Indiennes peuvent trouver un emploi, surtout des Indiens d'ailleurs, le travail des femmes est très peu développé, on en parlera tout à l'heure.
Alors évidemment, le secteur des services, les commerces sont un secteur très important en Inde, qui n'a cessé de croître depuis une quarantaine d'années. Le secteur qui a le plus perdu dans sa contribution au PIB, c'est le secteur agricole. Le secteur industriel a cru, mais dans une moindre mesure que le secteur des services. Donc si on regarde ces trois secteurs, on constate que ce sont surtout le secteur agricole qui a perdu en productivité et qui aujourd'hui ne produit pas autant d'emplois. J'ajouterais quelque chose de très important sur l'économie indienne, c'est que on peut diviser également l'économie entre secteur informel et secteur formel. Et la plupart des emplois, encore aujourd'hui en Inde, de 70 à 80% selon les chiffres, sont des emplois qui sont relativement précaires, parfois journaliers, assez pénibles, avec des contrats sans assurance, etc. C'est aujourd'hui encore le quotidien de très nombreux Indiens.
Vous parliez de l'agriculture. Il me semble que là-dessus, il y a non pas débat, parce que les chiffres sont là, mais il y a au moins des nuances à apporter sur le fait que ce secteur est un secteur qui a baissé en termes d'emploi. Catherine Brosse, il y a eu un petit pic quand même après le Covid, ce qui serait une mauvaise nouvelle d'après des économistes indiens, parce qu'en fait, ce serait un choix par défaut que font les Indiens d'aller travailler dans l'agriculture.
En fait, ce qui est exact, c'est que l'emploi est essentiellement informel, donc à partir du moment où vous avez des difficultés à être employé, vous rabattez sur des emplois du type agricole. Le secteur agricole, en fait, c'est une espèce de filet de sécurité pour l'emploi. Et donc, à la suite du Covid, on a vu pour la première fois, alors qu'il y avait une baisse tendancielle pendant des années de la part de la main-d'œuvre dans l'agriculture, on a vu cette part réaugmenter et en fait de manière relativement pérenne. Ce qui est une indication, comme le secteur agricole est un espèce de plan de secours, ce qui est une indication qu'en fait, il y a un vrai problème d'emploi en Inde, parce que les chiffres du chômage en Inde ne veulent rien dire, vu que lorsque vous n'avez pas d'emploi, vous n'allez pas être au chômage, vous allez essayer de trouver un emploi qui est très inférieur à vos qualifications. Et cet emploi, bien souvent, c'est l'agriculture. Donc quand on voit la part de la main-d'œuvre qui réaugmente dans l'agriculture, on se dit qu'il y a un problème d'emploi très sévère. Et en plus, cette part de la main-d'œuvre dans l'agriculture, elle est incroyablement élevé. C'est-à-dire l'agriculture correspond à 15% du PIB, mais 44% de la main-d'œuvre, ce qui est vraiment une spécificité indienne. Et ce qui parle beaucoup, vous en parlerez sûrement demain, mais de la productivité dans le secteur agricole qui est extrêmement faible en fait.
L'agriculture, par ailleurs, traverse une crise aujourd'hui. Le réchauffement climatique, les suicides d'agriculteurs, et en effet, c'est un sujet qu'on développera dans l'émission de demain. L'agriculture qui emploie, donc vous avez dit combien de personnes? Ça représente 44% des emplois, c'est ça à peu près?
Oui, 44-45% de la main-d'œuvre.
Donc parmi les plus gros, quand même, secteurs pourvoyeurs d'emplois aujourd'hui en Inde, s'ensuit ensuite le secteur du BTP.
Je fais de la peinture, des travaux de réparation, du plâtre. Je ne travaille pas tous les jours, ce n'est pas un emploi fixe. J'essaie de me débrouiller avec ce que je gagne, mais il n'y a pas suffisamment de travail, pas suffisamment d'argent. Ça m'angoisse 24 heures sur 24. Mais c'est la seule chose que je sais faire car je n'ai pas de diplôme. Je fais tout pour que mes enfants soient scolarisés, qu'ils aient des compétences, mais ça va être difficile car la population augmente et il n'y a déjà pas assez de travail pour tout le monde.
Alors, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, explique cet homme qui travaille donc de petits boulots, qui a été interrogé par France Info, nos confrères de France Info, il y a quelques mois. Non seulement il n'y a pas de travail pour tout le monde, mais en plus, Catherine Brosse, en 2019, l'Inde avait même, pour la première fois de son histoire, constaté qu'elle avait détruit des emplois, 9 millions d'emplois détruits en 6 ans. Dans quel secteur? Qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre-là, 9 millions d'emplois détruits?
Alors, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, si la croissance est tirée par des secteurs qui sont intensifs en qualification, mais peu en main-d'œuvre, vous n'avez pas de création d'emplois. Et en plus, l'industrie est extrêmement gênée par le niveau de qualification, en fait, de la main-d'œuvre, qui est relativement faible. Et quand il est élevé, en fait, n'est pas du tout employable. Beaucoup d'employeurs en Inde se plaignent amèrement du fait que les jeunes diplômés ne sont pas du tout employables parce que le curriculum est trop daté, il est trop vieux. Et donc tout ça fait qu'en fait il y a un recours plus important à de la mécanisation et donc à de la destruction d'emplois.
Yves-Marie Brault, comment on peut expliquer ce défaut de formation des jeunes Indiens aujourd'hui ?
Alors il y a eu tout un programme qui a été lancé justement quand Narendra Modi est arrivé au pouvoir en 2014.
Il avait promis de créer 20 millions d'emplois par an. Donc on est loin du compte.
Oui, c'est vrai que Narendra Modi fait beaucoup de promesses. Alors parfois, il n'y a pas forcément le budget qui correspond à l'ambition de ces promesses-là. Le programme Skill India a sans doute eu quelques résultats, mais effectivement, il y a toujours un problème énorme de déficit de qualification en Inde qui ne produit pas suffisamment encore d'ingénieurs qui sont capables de travailler dans les usines de très haute technologie. Par exemple, l'entreprise taïwanaise Foxconn, qui s'est installée en Inde depuis maintenant plusieurs années, qui produit les iPhones pour le monde entier, en particulier pour l'Asie, pour le coup, en Inde, a dû faire appel à de la main-d'œuvre chinoise et taïwanaise pour ses sites indiens, notamment à Bangalore, où là, elle a encore investi, ou elle prévoit d'investir pour l'année prochaine, 1,4 milliard d'euros pour un site de production de téléphones.
Parce qu'ils vont donc chercher de la main-d'œuvre ailleurs, en l'occurrence main-d'œuvre qualifiée, alors qu'en Inde, le taux de chômage atteint, alors c'était 8,3% en décembre 2023, c'est le plus haut niveau depuis 45 ans, et particulièrement chez les moins de 25 ans. Le taux de chômage se situe à peu près à 50%, Catherine Brosse. Mais vous dites, Catherine Brosse, que le problème, c'est pas tant le chômage des jeunes que le sous-emploi des jeunes.
Oui, en fait, le chiffre du chômage en Inde ne veut pas dire grand-chose. Alors, le gouvernement s'abrite beaucoup derrière ces chiffres du chômage parce que justement, ils sont assez faibles. En fait, ils ne veulent pas dire grand-chose. D'une part, parce qu'ils démontrent plutôt l'attente des jeunes diplômés pour avoir un emploi. Et comme je le disais, en fait, quand vous n'avez pas de filet de sécurité, de toute façon, si vous perdez votre emploi, vous n'avez pas d'autre choix que d'en prendre un autre qui ne soit pas à la hauteur de vos qualifications. Donc en fait, le vrai chiffre pour mesurer l'état de l'emploi en Inde, ce n'est pas le chômage, c'est la sous-qualification ou la surqualification plutôt en l'occurrence, des travailleurs pour les emplois.
Par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver dans certaines usines, dans certains sites de travail, comme personnes qui ont des qualifications qui ne correspondent pas à leur poste ?
Mais tout à fait, on peut tout à fait calculer ce qu'on appelle les rendements de l'éducation, c'est-à-dire de regarder combien une année supplémentaire d'enseignement, par exemple supérieur, produit de salaire en plus. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les rendements de l'éducation en Inde, ils sont très faibles. Très très faible, c'est-à-dire qu'acquérir un enseignement supérieur en dehors d'université d'élite, un enseignement supérieur ne produit pas plus de salaire. Ce qui produit beaucoup plus de rendement, en quelque sorte, c'est la qualification, enfin la formation professionnelle technique, ce qu'on appelle vocational training en anglais. Et ça, en fait, c'est extrêmement sous-développé en Inde. On compte qu'il y a à peu près 1% de la main-d'œuvre qui a eu droit à cette formation technique. Et c'est ça qui freine les entreprises, c'est ça qui freine l'industrie et qui fait qu'effectivement, les employeurs se plaignent amèrement de ne pas avoir les bonnes qualifications. Donc en Inde, il y a un vrai problème, en fait, de formation de la main-d'œuvre et aussi de désillusion de jeunes qui poursuivent des études supérieures qui, en fait, ne sont pas de très bonne qualité et donc sont obligés d'accepter un emploi qui n'est pas du tout à la hauteur de leurs espérances.
Yves-Marie Rau, en quoi consiste ce programme Skilling India, par exemple, dont vous parliez tout à l'heure ?
Alors, c'est de l'investissement dans l'appareil éducatif indien. C'est des aides pour les formations des gens qui sont en sous-emploi. Ça peut être des aides aux entreprises pour recruter des salariés. En réalité, c'est quelque chose qui, à chaque fois, c'est la critique des opposants, c'est qu'on ne sait pas trop où cet argent est envoyé finalement et on n'a pas vraiment de résultats concrets. On ne sait pas à quoi ça correspond. Effectivement, le chiffre de 8% de chômage qui a été atteint en 2023 est évidemment critiquable. Les chiffres du chômage en Inde ne sont pas très très pertinents.
Surtout mais parce que vous rappeliez que l'économie informelle était très importante.
C'est ça, exactement. Alors après, j'ajouterais quelque chose, c'est qu'effectivement c'est très important de dire qu'en fait les qualifications des Indiens à l'heure actuelle ne sont pas forcément adéquates pour les besoins des entreprises. Mais il y a des Indiens qui sont très qualifiés et qui ont accès à des formations de qualité. Et qui en fait s'en vont tout simplement. Il y a toujours. Alors, on commence à parler aujourd'hui de brain gain, de retour d'Indiens en Inde qui, c'est vrai, ont eu des expériences à l'étranger, ont travaillé pour des entreprises, ont parfois d'ailleurs étudié à l'étranger, hein, mais et reviennent parfois en Inde. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grande partie des Indiens très qualifiés qui aujourd'hui partent, hein, aux États-Unis, au Canada, qui sont toujours beaucoup plus attirés par le marché du travail, qui est beaucoup plus attractif dans ces pays-là qu'en Inde, où les conditions salariales sont quand même assez faibles, à un niveau de qualification très élevé.
Beaucoup partent aussi en Nouvelle-Zélande, et il paraît, Catherine Brosse, qu'il y a, enfin, il paraît, je pense qu'il y en a partout, mais il y en a beaucoup en Inde, des agences spécialisées pour vraiment guider les jeunes Indiens dans un projet de départ et de recherche d'emploi à l'étranger.
Oui, tout à fait, mais ça, c'est une partie très petite de la main-d'œuvre, en fait. C'est un peu.
C'est vraiment les plus qualifiés.
C'est un peu ce qu'on essaie de voir, enfin, ce qu'on a tendance à voir, c'est-à-dire, effectivement, des gens qui sont. Enfin, des jeunes qui sont extrêmement bien formés, parce qu'il y a quand même des universités de pointe en Inde. Hein. Mais c'est, dans les proportions, c'est très petit, en fait. Vous avez une partie importante de la main-d'œuvre qui se forme dans des instituts supérieurs qui sont de qualité très médiocre et qui ressortent avec des qualifications très médiocres aussi.
Et pourquoi c'est médiocre tout ça alors ? Qu'est-ce qui fait systématiquement les personnes qui sortent diplômées de ces structures, de ces écoles, ne soient pas, d'après les employeurs, employables justement ?
Parce que le curriculum est trop vieux. Parce qu'il n'y a pas d'adaptation. Et il y a quelque chose, je trouve, une réforme qui a été mise en place, qui est très parlante. Modi a fait venir, enfin disons, a facilité l'implantation d'universités étrangères en Inde très récemment. Et ça, justement, je trouve que c'est la reconnaissance du fait qu'il y a un besoin de modernisation, en tout cas du système de formation dans l'enseignement supérieur.
Quel type d'université, par exemple ?
Il a facilité, en fait, l'implantation de plein d'universités étrangères en Inde. Et il y a beaucoup d'universités américaines qui se sont implantées, qui ont ouvert des campus, des universités anglaises, pour justement offrir de la formation supérieure, de l'enseignement supérieur, à un marché qui est quand même en croissance, objectivement.
Yves-Marie Rowe.
Alors oui, je pense qu'effectivement, c'est une reconnaissance du manque de qualité des formations, mais c'est aussi cohérent avec cette volonté très libérale du gouvernement indien de privatiser en fait tout un système. Aujourd'hui, le système éducatif indien repose en grande partie en fait sur des instituts privés qui sont en plein boom. Il y a énormément d'écoles de commerce qui ont émergé ces dernières années, qui ont d'ailleurs des stratégies d'internationalisation. On retrouve des écoles indiennes à Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis. Ont des stratégies tout simplement capitalistes, économiques, hein, pour développer leur curriculum et avoir davantage d'étudiants, parce que c'est un secteur économique qui rapporte de l'argent.
Et les droits de scolarité sont très chers, donc pas accessibles à tout le monde ?
Les droits de scolarité sont très chers, mais il y a un besoin tellement énorme en Inde de formation, et les Indiens sont prêts à dépenser des sommes très importantes pour accéder à ce rêve, hein, de professionnel, d'avoir un job très rémunérateur. Une entreprise, une des licornes indienne, c'est Baiju. Baiju, c'est une plateforme en ligne qui propose des formations en ligne, un peu l'équivalent de Coursera, mais alors qui a bien beaucoup plus marché parce que c'est à l'échelle d'un pays d'un milliard 400 millions d'habitants, et qui propose des formations et qui aujourd'hui cartonne, qui est une des plus grosses capitalisations boursières pour les entreprises de haute technologie en Inde.
Catherine Brosse.
Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'aspirations de la jeunesse en fait à accéder à des postes qui soient supérieurs et donc à avoir un vrai investissement dans l'éducation, mais juste justement, c'est peut-être de là que viendra aussi la désillusion, c'est qu'à mon avis, il y a énormément d'espoir et une économie qui va avoir du mal à satisfaire tous ces espoirs, en fait. C'est-à-dire la création d'emplois, comme on le disait, bon, alors quand la croissance ne détruit pas d'emplois, elle en crée assez peu. À un moment où, en fait, vous avez 10 millions de nouveaux entrants sur le marché du travail, où la participation des femmes au marché du travail réaugmente. Et donc, il y a un vrai problème. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'aspirations de la part de la jeunesse, pour ça qu'ils investissent dans l'éducation. Est-ce que l'économie arrivera à délivrer un nombre suffisant d'emplois ? C'est pas du tout sûr, en fait.
Autre aspiration de la jeunesse ou de certains jeunes, c'est d'avoir un filet de sécurité, comme vous le disiez tout à l'heure, en trouvant un emploi, par exemple, dans la fonction publique, un emploi stable. Mais là aussi, il y a beaucoup de désillusions.
On voit bien que les listes de postes à pourvoir sont désormais annoncées juste avant la tenue d'élections nationales ou régionales. C'est le cynisme de nos hommes politiques que d'appâter les étudiants comme cela, pensant qu'ils voteront pour eux. Mais une fois l'élection passée, ils ne se rappellent de nous que 5 ans plus tard, lors du prochain scrutin. De nombreux étudiants se sont suicidés car ils n'en pouvaient plus d'attendre des années pour passer le concours. C'est déprimant. On subit énormément de pression. Nos parents n'ont pas conscience de l'immense travail que cela demande pour réussir ce concours.
Témoignage recueilli cette fois par France 24 en septembre dernier. Catherine Brosse, la fonction publique, est-ce que c'est encore un secteur pourvoyeur d'emploi, si on met de côté les considérations politiques qu'évoque cet Indien et qu'on a beaucoup, par ailleurs, dont on a beaucoup parlé hier, mais est-ce que là, les jeunes peuvent encore trouver des postes qui correspondent à leurs qualifications et avoir un emploi stable et jusqu'à la fin de leur carrière de travail?
Alors, le nombre d'emplois est relativement stable. Par contre, le nombre de candidats est largement en augmentation, parce que c'est des postes en fait qui sont très bien payés, qui sont avec plein d'assurances et qui sont très souvent des postes à vie. Donc effectivement, c'est le rêve de toute famille, la classe moyenne, si tant est qu'elle existe, c'est d'avoir quelqu'un qui arrive à avoir un job dans le secteur public. Et comme il y a de plus en plus effectivement de jeunes qui se forment, il y a de plus en plus de candidats. Et donc ça devient de plus en plus violent comme concurrence et comme taux de réussite en fait.
Alors si la croissance indienne ne crée de l'emploi que dans une moindre mesure, une très moindre mesure, comme vous l'avez dit l'un et l'autre, est-ce qu'on peut dire en revanche qu'elle a contribué à accroître le niveau de vie de la population indienne en général, ou est-ce qu'elle n'a fait, parce que quand on regarde Yves-Marie Brault, les écarts de revenus ils sont énormes, les disparités sont très grandes, est-ce que c'est cette croissance-là qui n'a fait qu'avantager des classes sociales qui étaient déjà favorisées, déjà insérées aussi dans une certaine mondialisation?
Oui, alors on peut regarder, on peut cadrer avec quelques chiffres, mais effectivement c'est 1% des plus riches qui détiennent aujourd'hui en Inde 40% des richesses. Donc on voit une concentration parmi les plus hauts revenus en Inde. Et évidemment c'est des revenus du capital, pas des revenus du travail. Donc,
c'est effectivement presque une géographie des millionnaires d'ailleurs en Inde. Bombay concentre beaucoup de millionnaires.
Alors, il y a une géographie des millionnaires très importante. Effectivement, on a Bombay récemment est devenue la ville avec le plus grand nombre de millionnaires en Asie, hein, pas dans le monde, mais en Asie. Avec, vous avez cité par exemple Ambani et en introduction.
Mukesh Ambani, le mania
tour
des médias.
Antilla, qui fait à peu près 2/3 du palais de Versailles. Donc effectivement, ça c'est assez impressionnant. On a des cas comme ça un peu extrêmes. Alors il faut peut-être un peu nuancer ce chiffre. Effectivement, le niveau de vie, le PIB par habitant en Inde s'est accru, hein, sous Modi et depuis en fait 30 ans. La croissance, effectivement, les bénéfices de la croissance n'ont pas été distribués également. C'est les classes sociales, les supérieures qui ont le plus bénéficié de tout ça. Par contre, si on regarde le coefficient de Gini, qui est l'indicateur, en fait, des inégalités, et qu'on compare avec d'autres pays des BRICS ou des Sud, par exemple, comme l'Afrique du Sud, qui est, lui, le premier en termes de coefficient de Gini, là, se trouve qu'à la 90e position, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas un pays qui est ultra inégalitaire, et c'est la vision qu'on en a souvent, effectivement. Mais il faut effectivement la nuancer.
Catherine Brosse.
Oui, justement, je suis tout à fait d'accord avec ça. On a tendance à insister sur les inégalités en Inde. Mais en fait, ça dépend quel prisme on prend. C'est-à-dire, si on prend l'indicateur de Gini, il est à peu près comparable à celui du Canada et de l'Égypte, qui ne sont pas réputés être des pays extrêmement inégalitaires. Par contre, si on regarde uniquement les 1% les plus riches, effectivement, on pousse des hauts cris en disant que c'est extrêmement inégalitaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez une immensité de la population qui a à peu près le même revenu et qui n'est pas très élevée. C'est pour ça que la classe moyenne, en fait, n'existe pas tellement.
J'allais vous demander, est-ce qu'on peut parler de classe moyenne?
Non, pas tellement. En réalité, si vous regardez la structure de revenus, vous avez énormément vous avez peut-être 60% de la population qui est avec moins de $5 par jour. C'est pas une classe moyenne. Mais voyez, donc quand on prend un indicateur de Gini, effectivement, le Gini est pas très indicateur d'inégalité parce que vous avez tout un océan d'individus qui ont à peu près le même revenu. Par contre, ce qui choque beaucoup, c'est que ceux qui sont tout en haut de la distribution de revenus, qui sont les plus riches, eux sont extrêmement riches. Donc, on va avoir une conclusion très divergente en fonction de si on regarde le Gini, c'est-à-dire l'intégralité de la distribution, ou si on regarde juste le bout supérieur.
Oui, parce que j'essaie juste de comprendre cet indicateur de Gini, en quelques mots, comment il fonctionne, pourquoi est-ce qu'il exclut, entre guillemets, ou rend invisible ce 1% des Indiens les plus riches, ces milliardaires.
Il ne le rend pas invisible, mais en fait, il prend en compte la distribution sur l'ensemble de la population. Donc, si vous avez la très grande majorité de la population qui gagne strictement ou à peu près la même chose, vous allez avoir un indicateur de Gini qui ne va pas être extrêmement élevé. Par contre, si vous mettez la focale effectivement sur ceux qui, les 1% les plus riches, comme eux sont très très loin de la moyenne, là on va se dire effectivement c'est très inégalitaire. Donc en fait, il y a deux lectures à avoir sur les inégalités en Inde. Il y a la grande masse, où là, comme on le disait, l'indicateur de Gini n'est pas hors de proportion. Par contre, effectivement, si on se concentre sur vraiment le bout de la distribution, c'est-à-dire les plus riches, ils sont tellement extrêmement riches qu'effectivement, on se dit, il y a un gouffre entre eux et le reste de la population.
Sur 1,4 milliard d'habitants en Inde, 813 millions de personnes dépendent aujourd'hui toujours de l'aide alimentaire. C'est 58% de la population, alors que depuis 2014, Narendra Modi ne cesse de vanter ses programmes d'aide alimentaire. On expliquait hier qu'il y a son effigie sur tous les cartons, les tracts de distribution d'aide. Mais voilà, toujours est-il que 813 millions de personnes continuent à dépendre de cette aide et que ceux qui se pensaient appartenir aux classes moyennes, ont compris combien ils étaient fragiles pendant et après la crise du Covid.
Avant le Covid, j'avais des employeurs réguliers, mais j'ai tout perdu. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à retrouver le même niveau de revenu. Je gagne moins de la moitié qu'avant. Mes parents m'aident, donc j'arrive juste à acheter de la nourriture, mais je réduis nos dépenses médicales.
Alors là aussi, on peut peut-être, Yves-Marie Roth, essayer de trouver certaines images pour expliquer. Donc, il y a cette tour Attilia pour raconter les milliardaires. Il y a aussi d'autres images qui racontent une paupérisation d'une certaine Inde. Alors, on a bien compris qu'il fallait prendre les chiffres avec des pincettes et que tous ne disaient pas la même chose et nous ni les mêmes choses de la même façon. Mais il paraît par exemple qu'un des indicateurs pour dire que les Indiens les plus pauvres le sont de plus en plus, c'est les ventes de deux roues, les ventes de scooters. Alors, je ne sais pas quel crédit vous accordez à cet indicateur, qu'est-ce que ça veut dire et vous, comment vous lisez cette paupérisation relative d'une partie de l'Inde.
Alors les deux roues, par exemple, c'est indispensable pour aller travailler. Je voudrais revenir sur ce chiffre de 800 millions de personnes éligibles à l'aide alimentaire. Qui
813 en fait, d'ailleurs, 813, c'est 13 millions de plus, c'est pas rien.
Qui est très repris et utilisé. En fait, effectivement, le barème a été revu, en fait, pour inclure beaucoup plus d'Indiens dans ce programme d'aide alimentaire qui sont effectivement éligibles à 5 kilos de grains, blé et riz par mois. En réalité, il y a pas 800 millions d'Indiens qui vont au commerce de rations alimentaires pour aller chercher leur ration. Et le taux a été largement élevé. Alors pour la classe moyenne maintenant, donc il faut un peu relativiser ce chiffre. Par exemple, peut-être plus intéressant comme chiffre, c'est peut-être les mal nourris en Inde. C'est 14% de la population qui sont encore mal nourris.
Donc vous voulez dire que donc ceux qui bénéficient d'aide alimentaire ne sont pas nécessairement les mal nourris.
Exactement.
D'accord.
Donc 800 millions, ça me paraît un peu trop élevé. En termes de l'extrême pauvreté en Inde a quand même diminué. On est les chiffres de l'Inde, bon, évidemment, utilisent leurs propres indicateurs, mais ils estiment à 3% de gens qui sont en situation d'extrême pauvreté. Donc il faut peut-être un peu relativiser tout ça. En termes de classe moyenne, effectivement, elle n'est pas forcément existante en Inde. J'avais regardé en 2015, je m'étais amusé à regarder certains indicateurs, utiliser certains indicateurs internationaux pour essayer de comprendre la taille de la classe moyenne en Inde. Et par exemple, si on regardait ceux qui possédaient justement un véhicule, deux roues ou quatre roues, une télévision, un ordinateur et un téléphone, ça correspondait seulement à 5% de la population. Alors il faudrait réactualiser ces chiffres-là, mais c'est relativement faible si on regarde des indicateurs internationaux. Après, si on regarde des indicateurs comme par exemple le revenu disponible pour les loisirs, bon, on arrive à des chiffres comme 25% qui correspondraient peut-être à une classe moyenne indienne qui évidemment vit dans les villes, etc., qui est capable de dépenser pour les loisirs.
Donc une classe moyenne indienne qui se pense comme telle, qui ne l'est pas nécessairement, qui vit beaucoup en dessous des moyens de ce qu'on considère être la classe moyenne dans d'autres pays, des secteurs d'emploi qui ne sont pas perméables les uns aux autres, et ça vous avez bien expliqué au tout début les mécanismes de la croissance et le fait que plein de secteurs aujourd'hui pourvoyeurs de croissance ne l'étaient pas d'emploi emploi. Or, il est très difficile de passer aujourd'hui d'un secteur à l'autre. Donc, quelle perspective d'évolution pour ces classes moyennes qui se pensent comme telles en Inde, Catherine Bross? Quel rêve a fait Narendra Modi pour ses compatriotes? De quel rêve indien se croit-il le messager quand il s'adresse aux Indiens en disant « Voilà, vous êtes promis au rêve indien, il parle de quoi ?»
Alors c'est très intéressant parce qu'en fait le rêve que vend Modi, c'est pas un rêve du tout de progrès économique individuel en fait. C'est un rêve collectif de l'Inde ne doit plus être vue comme le pays des pauvres, c'était dit en introduction d'ailleurs, c'est très juste. L'Inde compte dans le monde, l'Inde est devenue un pays fort, tous les dirigeants viennent nous embrasser, nous étreindre et c'est ça en fait qui leur vend, c'est l'idée que ça y est, on est devenu une cinquième puissance mondiale et c'est un rêve qui est collectif en fait. Donc, fondamentalement, il y a quelque chose de très étonnant, c'est qu'on se dit, bon, les faiblesses structurelles de la croissance indienne vont finir par se voir, mais est-ce qu'on rendra le gouvernement Modi responsable de ça? C'est assez peu probable, en fait. Parce que le rêve qui a été vendu par Modi, c'est le rêve d'une Inde forte, d'une Inde qui compte, d'une Inde présente, et c'est pas du tout un rêve d'ascension sociale individuelle, en fait.
Et vous, Yves-Marie Roux, quel rêve entendez-vous quand vous entendez Narendra Modi, à l'instar de Xi Jinping, pour les Chinois, parler pour les Indiens d'un rêve qu'il faut accomplir?
Alors, lors de son discours pour le jour de l'indépendance l'année dernière en Inde, Narendra Modi a en fait promis aux Indiens, s'ils le réalisaient l'année prochaine, que d'ici 2047, l'Inde serait un pays développé. Bon, évidemment, on comprend que c'est très vague, hein. Énormément de vacuité dans les discours, qu'est-ce qu'un pays développé, etc. Mais c'est ce qu'il vend, hein. Il vend du rêve. Les Indiens ne votent pas forcément pour lui, pour ses performances économiques. Ils votent en fait pour lui parce qu'il leur promet quelque part un retour sur la scène internationale, d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'il leur vend, c'est de la fierté à l'échelle internationale. Et puis, évidemment, beaucoup d'Indiens aussi achètent hein, ce discours qui marginalise les musulmans, qui les rend responsables d'un certain nombre de maux. Ils valident ce discours et ils pensent que peut-être que c'est ici une solution économique à un certain nombre de problèmes. Donc c'est un peu comme ça qu'est présentée la chose aussi. Hein. C'est pas seulement voilà, des gens qui attaqueraient la culture indienne, mais c'est aussi un problème économique hein, pour les Indiens à l'heure actuelle. Que Modi propose de résoudre en augmentant les clivages. Et puis juste, une dernière chose, en fait, les Indiens, ils aspirent aussi à appartenir à cette classe moyenne qui n'existe pas, en fait. Ils aspirent à... Il y a des sondeurs qui sont allés poser des questions à des Indiens et qui leur ont demandé « Est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à la classe moyenne ?» Et à 50% d'entre eux, les Indiens ont dit oui. Donc en fait, c'est cette classe moyenne, ils aspirent, et c'est ça qu'on voit aussi à travers l'explosion en Inde des shopping malls, etc., des grands centres commerciaux, c'est les Indiens aspirent à un mode de consommation de loisirs international, moderne, etc.
Les Indiennes aussi, Catherine Bross, vous sembliez dire tout à l'heure que le taux d'emploi des femmes a plutôt augmenté ces derniers temps, et je lis à ce sujet des informations assez contradictoires. On dit que 23% des Indiennes aujourd'hui occupent un travail ou en cherchent un, que la plupart n'ont jamais travaillé ou qu'elles ont arrêté.
Je subissais des pressions parce que je ne m'occupais pas assez de mes enfants. Et puis, j'ai finalement décidé qu'il n'y avait aucun intérêt à travailler. Je devais écouter mon mari, m'occuper des enfants. Et puis finalement, j'ai démissionné. Est-ce un crime d'être une femme? Un crime d'être une fille? Est-ce un crime si elle parle? Ou si elle va travailler, est-ce mal? J'ai l'habitude de chercher des réponses à ces questions. Et je me sens si triste, même si je gagne ma vie honnêtement. On me pose toujours les mêmes questions et parfois je n'en peux plus.
Alors Catherine Bross, le chiffre d'emploi des femmes en Inde aurait plutôt augmenté ces derniers temps?
Oui, il a augmenté depuis 2 ans en fait. Il réaugmente, il a longtemps baissé, il est parmi les plus bas au monde. Mais récemment, on a vu qu'effectivement, il avait remonté de manière importante.
Alors, dans quel secteur plutôt? Est-ce que c'est entre guillemets bon signe pour l'économie? Je parle bien sûr pas des questions sociales que ça soulève, mais là, en l'occurrence, des questions économiques. C'est-à-dire, est-ce que si elle trouve un emploi, c'est parce qu'il n'y a plus le choix, que dans la famille, on la pousse à en trouver un?
Oui, alors c'est effectivement, est-ce que c'est un bon signe? La première chose, ça peut être du fait qu'il y a besoin qu'elle travaille. Et la deuxième, en fait, il y a quelque chose d'assez cynique, mais déjà qu'on n'arrive pas à créer suffisamment d'emplois à un taux de participation des femmes au marché du travail relativement bas, si les femmes en plus se mettent à travailler, il va falloir créer encore plus d'emplois. Et donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la croissance ne crée pas d'emplois, pas suffisamment, et si en plus les candidats aux emplois augmente de manière importante, ça va devenir vraiment problématique, en fait.
Alors qu'on ne peut peut-être que leur souhaiter, ou c'est très franco-centré de le voir comme ça? En Inde, comment est-ce qu'on considère le travail des femmes? Comment elles-mêmes le considèrent?
Alors, il est très stigmatisé, le travail des femmes. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce qu'on entendait dans votre extrait. Les femmes se disent, mais pourquoi travailler une fois qu'on a une famille? On serait beaucoup mieux à la maison, à s'occuper des enfants. Enfin, il y a un poids social très, très important, qui est hétérogène en fonction du niveau social, mais qui est quand même très, très fort pour les femmes. Après, ça dépend des couches sociales. Disons que pour les couches sociales les plus élevées, urbaines, etc., c'est un poids de stigma social. C'est-à-dire, une bonne épouse ne doit pas travailler. Et par contre, dans les zones rurales, qui est en fait là où la participation des femmes au marché du travail avait le plus baissé, souvent on avance le fait que ce recul de l'emploi féminin est lié à l'absence d'emploi, en fait. Donc il y a deux facettes, ça dépend de quelle couche sociale on regarde. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Évidemment, si c'est par stigma social, le fait qu'elles travaillent mieux, enfin qu'elles travaillent plus, est plutôt une bonne nouvelle parce que ça leur donne de l'autonomie. Si c'est uniquement qu'elles travaillaient moins parce qu'il n'y avait pas d'emploi et qu'elles se remettent à travailler, là, effectivement, c'est une autre problématique.
Alors, depuis le début de cette émission, je remarque qu'on emploie le terme de couche sociale, de classe sociale, et qu'on n'a jamais employé le terme de caste. Est-ce que c'est parce que c'est un mot qu'on n'emploie plus en Inde ou dans la communauté des chercheurs sur l'Inde? Est-ce que vous croisez encore ce mot de caste? Est-ce qu'elles existent encore? Et le cas échéant, est-ce qu'on peut plaquer une sorte de cadre qui serait que les classes moyennes correspondent à une certaine caste? Enfin, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, Yves-Marie Rau?
Non, en fait, il y a toujours une correspondance assez forte quand même entre le niveau de richesse et la caste. Hein. Ça, c'est évident. Donc, la caste est toujours un groupe social qui est opérant, structurant de l'économie indienne. On le voit dans plein de secteurs. Il y a des discriminations à l'emploi envers certaines castes. Ça, c'est quelque chose qui a toujours cours. Alors, c'est quelque chose qu'on emploie de moins en moins dans les secteurs économiques parce qu'en fait, le discours est un peu devenu autour de du mérite. Donc, la caste est un peu évacuée par ce discours-là dans le cadre d'un marché libéral où, effectivement, on évacue cette dimension qui, malgré tout, joue tout de même un rôle.
Et Narendra Modi emploie ce mot de caste par ailleurs, Catherine Brosse?
Oui, ça peut lui arriver, mais je suis assez d'accord avec l'idée que, en fait, le discours sur la caste disparaît complètement. C'est-à-dire que jusqu'à l'arrivée du BJP, il y avait, et c'est dans la Constitution d'ailleurs, beaucoup de programmes dédiés aux castes les plus défavorisées, etc. Et en fait, les électeurs du BJP ont beaucoup de mal avec ces politiques de réservation et de discrimination positive. Ils sont beaucoup plus réactifs à un discours, je suis d'accord, de méritocratie. Et donc, dans le discours, en tout cas, la caste tend à disparaître. Même si on regarde les chiffres, elle est encore très structurante de la distribution des revenus, des questions de discrimination, etc. Mais dans le discours politique, elle a eu tendance à s'effacer.
le dernier tube de celui qu'on appelle l'Elvis Presley du Punjab. Il s'appelle Mohit Chauhan et ce titre, ça veut dire effacer l'amour, Ishq Mitai, extrait de la bande-annonce du film Amar Singh Shamkila. Vous écoutez Culture Monde, le deuxième épisode de notre série sur la décennie maudite, à quelques jours des élections générales qui vont durer plusieurs semaines en Inde. Aujourd'hui, avec nos invités Yves-Marie Roux et Catherine Brosse, à qui profite la croissance indienne? Pourquoi si peu d'Indiens en perçoivent-ils les fruits? Et quand Narendra Modi lance de grands projets comme le développement massif de l'énergie solaire, qui en bénéficie?
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Avant, l'électricité fournie par le gouvernement me coûtait 7 à 8 centimes d'euros l'unité électrique. Avec le solaire, ce sera seulement 1 centime.
On observe une augmentation de la demande de 20% environ chaque mois. Avant, nous avions 3 chantiers de ce type par mois. Maintenant, c'est 15 à 20.
Une électricité moins chère et issue d'énergies renouvelables, l'Inde a misé sur le solaire, dispose déjà d'une capacité solaire installée de plus de 60 gigawatts, soit le 5e pays au monde le plus avancé en la matière. Ça fait d'ailleurs partie du rêve de Modi. 50% des besoins énergétiques du pays couverts par le renouvelable d'ici 2030. Alors à qui cela profite-t-il? Nous sommes en ligne depuis Delhi, où il est 3h30 de plus qu'en France, donc 15h12, avec Marie-Hélène Zera. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, membre du CESMA, qui est le Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques de l'Université Paris-Cité. Et vous êtes en ce moment donc en Inde au Center for Policy Research. D'abord, en ce qui concerne le plus gros de l'effort sur l'énergie solaire, Marie-Hélène Zera, où se porte-t-il aujourd'hui? À quoi ressemblent les parcs solaires indiens? Quels besoins couvrent-ils à peu près?
Alors, effectivement, le choix qui a été fait pour le développement de l'énergie solaire en Inde passe avant tout par le développement de très très grandes fermes solaires, parmi les plus grandes au monde, sur des hectares, des milliers d'hectares, essentiellement dans les états de l'ouest de l'Inde, le Rajasthan, le Gujarat, et représentent près de 80%, même un peu plus, je crois, de la production d'énergie solaire, contrairement à la part très marginale du photovoltaïque installé sur les toits des maisons, que ce soit dans les zones rurales ou dans les zones urbaines. Et puis, vous avez aussi des programmes de développement de pompes solaires pour améliorer l'irrigation et pour moins dépendre du diesel et des pompes d'irrigation.
Alors, est-ce que pour l'instant, la société indienne en profite, Marie-Hélène Zera, c'est-à-dire par exemple ces pompes dont vous parlez ou ces panneaux solaires sur les toits, est-ce que le coût d'installation reste accessible à tous? Qui aujourd'hui est équipé?
Alors, pour ce qui est des pompes solaires, ça dépend vraiment des politiques des États, donc c'est extrêmement subventionné. Et c'est très utile pour les États dans lesquels l'électricité est assez coûteuse. Et c'est moins utile dans les états où l'irrigation, enfin l'énergie pour les agriculteurs est quasiment gratuite, comme le Punjab par exemple, qui est au nord de l'Inde, où on voit beaucoup moins le développement de ces pompes solaires. Et pour ce qui est des panneaux photovoltaïques, vous avez un système de subvention. En ville, en général, sont plutôt les classes moyennes, aisées, supérieures, qui bénéficient de ces programmes. Puisque malgré le coût de la subvention, le coût d'installation d'un panneau est assez élevé. Donc ça vous permet malgré tout de faire baisser vos factures d'électricité, mais il faut quand même pouvoir faire cet investissement initial. Donc en ville, quand on voit des panneaux solaires, on sait qu'on est dans des quartiers plutôt résidentiels, de classe moyenne supérieure ou de classe moyenne assez aisée.
Le gouvernement indien dit que avec des programmes d'application solaire photovoltaïque, alors qu'ils ont commencé il y a longtemps déjà, dans les années 90, l'Inde a pu électrifier 11 300 villages. Or, on sait qu'aujourd'hui, si 96% des villages indiens sont considérés comme électrifiés, eh bien on considère en Inde un village électrifié quand 10% ou moins des ménages reçoivent l'électricité ainsi que des lieux publics. Donc ça veut dire que beaucoup encore n'y ont pas accès. 300 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Là encore, il y a des disparités entre États. Vous avez particulièrement étudié, par exemple, deux États du nord de l'Inde, le Bihar à l'est, tout près du Bangladesh, et le beaucoup plus riche Haryana à l'ouest, près du Pakistan. Il y a de grandes disparités entre États, à la fois sur l'accès à cette énergie solaire et sur l'accès à l'électricité tout court.
Alors absolument, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que vous avez malgré tout dans les deux dernières décennies une amélioration notable de l'accès à l'électricité. Aujourd'hui, l'Inde considère que le service d'accès à l'électricité est universel, à peu près 100% des ménages sont connectés, mais dans les zones rurales, dans certains villages, en particulier dans les états les plus pauvres de l'est de l'Inde, vous avez encore de nombreux ménages qui ne sont pas électrifiés. Alors dans ces villages-là, le solaire, c'était vraiment un moyen de substituer à l'absence d'électricité. Et donc avec des programmes qui ont été plutôt promus par des ONG, souvent pour lesquels les ménages n'avaient pas forcément à investir dans les panneaux. Et le travail qu'on a mené, et que je n'ai pas mené du tout toute seule, mais que j'ai mené avec une collègue, Bérénice Girard, montre, et c'est assez important parce que je pense que ça permet de relativiser les débats un peu iréniques sur la transition énergétique. Lorsque l'électricité arrive dans ces villages qui étaient faiblement branchés sur le réseau, en réalité, on abandonne les panneaux solaires. C'est-à-dire que le solaire, comme substitut à l'accès à l'électricité, disparaît. En tout cas, le photovoltaïque de petite taille disparaît dès que l'électricité arrive. Donc, on se retrouve avec une masse aussi de panneaux solaires qui vont devoir être recyclés et qui vont être abandonnés sur place.
Qu'on ne sait pas comment traiter.
Ça représente une petite part, hein, une toute petite part de l'électricité.
Peut-être un petit mot pour conclure. Comment l'Inde compte encore développer ses parcs solaires? Est-ce qu'elle a déjà repéré des terrains? Est-ce qu'elle a la place? Est-ce que ça peut se faire sans que ce soit au détriment de populations indiennes expropriées, comme on a pu le voir dans les années 80-90 avec les grands barrages, les années 60 jusqu'à 80 avec les grands barrages, par exemple?
Alors vous avez trois types de défis avec les grandes fermes solaires. Le premier, c'est une nouvelle géographie économique de l'énergie, puisque toute la partie est de l'Inde où vous avez les mines de charbon vont décliner et ce sont déjà des états pauvres, alors que ce sont les états de l'ouest qui vont bénéficier des grands parcs solaires. Donc là, vous avez un enjeu vraiment de territorial. Après, vous avez effectivement des enjeux de dépossession de terres, de paysans, puisque les grandes fermes solaires s'installent sur des terrains immenses et la plupart du temps, on ne reconnaît pas le droit de ces paysans qui ont pourtant souvent des droits de propriété. On empêche les pratiques pastorales.
On est en train de vous perdre, Marie-Hélène Zéra.
Très forte de population agricole et puis surtout...
Ça y est, vous pouvez conclure votre phrase. Merci beaucoup.
Je vous disais que vous avez effectivement des dépossessions de terres. Ah, d'accord.
Bon, écoutez, vous ne nous entendez plus. Marie-Hélène Zéra, je crois que la ligne est très compliquée. Vous étiez en direct de Bombay. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, membre du CESMA, Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques de l'Université Paris-Cité. Vous parliez des dépossessions de terres, beaucoup de terres fertiles pour l'agriculture notamment, qui sont promises à l'installation de ces parcs solaires, des conflits de territoire aussi pour faire circuler les animaux d'élevage, etc. Toutes ces questions qui se poseront dans les années à venir, puisque l'Inde doit relever ce défi, pense Narendra Modi, de l'énergie solaire. Un mot sur les marchés qui sont attribués aux entreprises pour le solaire, ça se passe comme pour tous les secteurs de l'économie, manifestement, ce capitalisme de connivence dont on n'a pas beaucoup parlé avec vous, Catherine Brosse, et avec vous, Yves-Marie Rau, en première partie de cette émission. C'est le cas aussi pour ces grands marchés, que ce soit l'exploitation des parcs solaires, que ce soit pour le futur aussi, la construction, la production de ces panneaux qui aujourd'hui sont massivement importés de Chine. Est-ce qu'on est toujours dans une forme de capitalisme de connivence? Qui veut répondre? Yves-Marie Rau.
Alors oui, effectivement, le défi pour l'électrification via le solaire en Inde est colossal, puisque l'Inde dépend encore à 73% du charbon dans son mix énergétique. Donc effectivement, c'est un des seuls pays au monde où construire électrifier une ligne de chemin de fer, en fait, ça aggrave son bilan carbone. Effectivement, alors sur le capitalisme de connivence, effectivement, parfois on parle même d'oligarchie en Inde, tellement le pouvoir économique est concentré dans les mains d'un petit nombre de milliardaires qui, effectivement, depuis une trentaine d'années, enfin même plus précisément depuis une dizaine d'années avec Narendra Modi, a acquis quasiment, tu vois, tous les appels d'offres publics, par exemple. Alors, c'est typique de Adani, qui est le grand, qui est
on a fait son portrait hier.
Voilà, c'est celui qui a connu l'ascension la plus spectaculaire dans les 30 dernières années, qui est un ami de Narendra Modi, qui vient du même état, donc Gujarat, et qui, effectivement, aujourd'hui, a eu tous les contrats pour la gestion des aéroports. Il y a énormément de zones économiques spéciales en Inde qu'il gère, etc. Le port de Mundra dans le Gujarat est le plus grand port privé en Inde, qui a requis l'expulsion d'un certain nombre de personnes également pour sa construction. Donc effectivement, ils ont pignon sur rue, disons, en tout cas accès direct au gouvernement indien à l'heure actuelle.
Bon, et quoi qu'il en soit, des inégalités entre États. Alors le Gujarat favorisé très certainement puisque Narendra Modi en vient, mais plus généralement, et Marie-Hélène Zera le disait aussi, pour l'électrification et l'accès au solaire. Mais globalement, si on parle de l'économie et de cette croissance en Inde, il y a une vraie disparité, Catherine Brosse, entre États.
Oui, très 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 importante en fait. On sous-estime souvent les disparités qu'il peut y avoir entre les différents États. Si on devrait brosser un portrait globalement, en fait, le Sud est quand même beaucoup plus avancé, plus riche. Souvent, on contraste le Kerala qui fait figure de pont, c'est-à-dire où l'éducation est la plus avancée, où les indicateurs de santé sont très avancés, etc.
Des États anciennement communistes, d'ailleurs,
oui,
pour
souvent,
la plupart.
Tout à fait. Alors, le Kerala est un cas particulier. On peut citer aussi le Bengale, qu'on contraste en général avec les États qu'on appelle Bimaru, c'est-à-dire, c'est un acronyme, en fait, pour Bihar,
Madhya Pradesh,
Rajasthan, Uttar Pradesh. Donc, ils sont des États beaucoup plus pauvres. Donc, il y a une très forte inégalité entre ces États qui est très marqué. Et effectivement, avec des États qui ont bénéficié beaucoup d'investissements, comme c'est vrai le Gujarat, qui bénéficie